Bonjour à toutes et à tous, aussi bien à vous qui êtes ici en présentiel, comme on dit en français moderne, ou katasarka en grec ancien, et à ceux qui nous rejoignent via les réseaux sociaux. Je vous signale que la prochaine fois, si vous ne pouvez pas venir, vous pouvez suivre en direct sur Facebook le culte du foyer de l'âme. Je vais vous accueillir avec les termes que le pasteur Wagner, qui a fondé cette maison, utilisait pour l'accueil des fidèles. Ami qui est venu ce matin, paix sur toi. Ici, tu ne seras l'hôte d'aucune famille étroite, mais celui de toute la grande famille, militante et blessée, battue mais invincible. Tu seras l'hôte de Dieu et tu seras chez toi. Ma maison s'appellera maison de prière pour tous les peuples, proclame l'Éternel par la bouche du prophète Ésaïe. Nous voulons ce matin, et ici dans ce temple, nous en faire l'écho en disant à chacune et à chacun, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu, notre Père, et de Jésus, notre Sauveur. Je vous invite à vous lever pour invoquer le Seigneur en chantant le premier spontané que vous trouvez sur les feuilles blanches qui sont dans les livres de chants. Je vous invite à poursuivre notre louange en chantant le psaume 24, « La terre au Seigneur appartient ». « Prenez place. Écoutons comment Dieu veut être aimé. Matthieu rapporte qu'un pharisien, docteur de la loi, posa cette question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, quel est le grand commandement de la loi ?» Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. » Voilà le grand commandement. Et voici le second commandement, qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Dieu fait de nous en Jésus-Christ. Nous reconnaissons notre péché. Pardonne-nous, Seigneur, car comme Paul, nous faisons si souvent le mal que nous ne voulons pas faire, et nous ne faisons pas le bien que nous voudrions faire. Pardonne-nous nos silences quand il fallait agir. Pardonne-nous nos vaines paroles. Pardonne-nous nos silences quand il fallait parler. Pardonne-nous nos vaines paroles quand il fallait agir. Pardonne-nous d'avoir confondu ton évangile avec nos prétendues sagesses. Pardonne-nous d'avoir limité notre service à ceux qui nous plaisent et de ne pas avoir aidé ceux qui nous sont indifférents ou hostiles. Pardonne-nous et aide-nous afin que nous apprenions chaque jour à mieux t'aimer et à mieux aimer notre prochain. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'annonce du pardon. Quand les montagnes s'effondreraient, dit Dieu, quand les collines chancelleraient, ma bonté pour toi ne faiblira pas et mon alliance de paix ne sera pas ébranlée. Que Dieu nous mette au cœur l'assurance de son pardon et nous aide à marcher vers son royaume. Nous chantons notre reconnaissance avec le cantique 212. Nous l'avons chanté la semaine dernière, mais ce n'est pas une interdiction, et j'ai trouvé qu'il correspondait bien à ce que je vais vous dire tout à l'heure. Donc, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, c'était une répétition. Là, vous pourrez le chanter encore mieux. Prenez place. Au moment d'ouvrir ton livre, Seigneur, nous te prions. Nous te prions de nous donner la foi et l'intelligence de ces textes que des hommes entre le Xe siècle avant notre ère et le premier siècle après ton Fils ont rédigés, inspirés par toi, mais qu'ils ont pu voir ou déformer à travers le prisme des époques où ils vivaient. Permets-nous de percer le brouillard du temps. Je vous invite à écouter trois textes tirés de la première épître de Paul aux Corinthiens, tous les trois dans le même chapitre 15. Alors, chapitre 15, versets 3 à 8. « Je vous ai transmis en premier lieu ce que j'avais reçu moi-même. Christ est mort pour nos péchés. Il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart sont encore vivants, et quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. En tout dernier lieu, il m'est apparu à moi, l'avorton. » Un peu plus loin, donc les versets 12 à 23 du même chapitre de la même épître. « Si l'on proclame que Christ est ressuscité des morts, comment certains d'entre vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts ? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vide, et vide aussi votre foi. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins de Dieu, car nous avons porté un contre-témoignage en affirmant que Dieu a ressuscité le Christ, qu'il ne l'a pas ressuscité, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas. Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est illusoire, vous êtes encore dans vos péchés. Dès lors, même ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espérance en Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. Mais non, Christ est ressuscité des morts, prémisse de ceux qui sont morts. En effet, puisque la mort est venue par un homme, c'est par un homme aussi que vient la résurrection des morts. Comme tous meurent en Adam, en Christ, tous recevront la vie. Mais chacun a son rang. D'abord les prémices, Christ, puis ceux qui appartiennent au Christ lors de sa venue. Et un peu plus loin, donc, versets 42 à 45... Il en est ainsi pour la résurrection des morts. Semé corruptible, on ressuscite incorruptible. Semé méprisable, on ressuscite dans la gloire. Semé dans la faiblesse, on ressuscite plein de force. Semé corps animal, on ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est ainsi qu'il est écrit, « Le premier homme, Adam, fut un animal doué de vie. » Le dernier Adam est un être spirituel donnant la vie. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds. Guide-nous par ta parole qu'elle éclaire chaque jour de nos existences. Amen. Le temps de Pâques, où nous sommes encore, célèbre la résurrection de Jésus. C'est la base du christianisme. Alors, je sais que dans nos sociétés modernes et mercantiles, Noël a pris le pas. Mais Paul l'écrit, a écrit, je vous l'ai lu. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine et notre foi, votre foi aussi est vaine. Il y a quelques années, ici même, je vous avais parlé de la résurrection. Enfin, je vous avais parlé des apparitions du Christ ressuscité à partir des récits que les évangiles font de ces apparitions, les différents évangiles, très différents d'ailleurs sur ce chapitre. Aujourd'hui, je vous propose de parler des apparitions de Jésus ressuscité à partir de ce catalogue que Paul a dressé de ces apparitions, catalogue qui, vous pouvez vérifier dans vos souvenirs ou dans vos Bibles, est très différent de ce que racontent les évangiles. Alors, tout d'abord, je vais peut-être remettre la première épître aux Corinthiens dans son contexte historique, avant de voir ce que Paul veut nous dire à travers ses Corinthiens d'autrefois. Paul a évangélisé Corinthe vers l'an 50, durant son deuxième voyage missionnaire. La première épître aux Corinthiens est un de ses textes les plus anciens. C'est un texte dense, touffu, dans lequel Paul aborde plusieurs sujets, en réponse ou en réaction à des situations locales à Corinthe que nous ne pouvons que deviner. Il parle des interdits alimentaires, du mariage, de la tenue des femmes dans les assemblées, de l'Eucharistie, de la collecte, et donc de la résurrection. On a toujours tendance à lire Paul à travers le prisme de nos souvenirs des évangiles. C'est une erreur. Paul est mort vers sans doute 64 pendant la première persécution par Néron, ou en tout cas vers ce moment-là, c'est-à-dire bien avant la rédaction du plus ancien évangile, qui est celui de Marc, rédigé sans doute vers 70. Il ne les a pas lus. Notre regretté ami Henri Persoz a d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle « Enquête sur Paul et Jésus » où il explique que Paul, bien sûr, n'a pas lu les évangiles, mais même s'il avait eu connaissance des traditions orales à propos du ministère terrestre de Jésus, cela ne l'aurait pas intéressé. Les destinataires des épîtres non plus, évidemment, n'ont pas lu les évangiles. Les évangélistes ont-ils lu les épîtres de Paul? C'est une vaste question. En tout cas, il est clair que Marc, le premier évangéliste, a lu la première épître aux Corinthiens, puisqu'il en a reproduit presque, pas tout à fait, mais presque textuellement, un chapitre, le chapitre 11, les versets 23 et suivants, dans lesquels Paul retrace la scène, le dernier repas de Jésus, qui est la seule allusion d'ailleurs que fait Paul à l'activité de Jésus de son vivant. Matthieu, puis Luc ont repris le texte de Marc sur la scène. Mais volontairement, puisqu'il n'en fait pas état, Marc n'a pas retenu le catalogue des apparitions de Jésus que dresse Paul dans sa première épître aux Corinthiens. Il n'y a pas d'apparition du ressuscité dans l'évangile de Marc, du moins dans sa version d'origine. Et puisque Marc n'en parle pas, c'est peut-être pour ça que Matthieu, Luc et Jean vont broder quelque chose de très différent sur les apparitions de Jésus ressuscité. Pour énumérer ces apparitions, Paul ne cite pas ses sources. « Je vous ai transmis ce que j'avais reçu. » La seule apparition donnant lieu à une source, c'est le témoin direct. La dernière, c'est Paul qui est lui-même le témoin direct, l'avorton, comme avorton, de l'apparition finale du ressuscité. Paul, de plus, ne donne aucune indication de lieu ou de circonstance. Il donne une chronologie, c'est tout. Les évangélistes seront beaucoup plus détaillés. Paul ne dit pas plus quel était l'aspect, la forme visuelle du ressuscité. Dans les évangiles, Jésus apparaît vraiment sous une forme corporelle, physique. Il a des pieds, devant qui Marie de Magdala et l'autre Marie se prosternent. On peut voir ou toucher ses plaies. Il mange pour démontrer qu'il n'est pas un fantôme. Certains ne le reconnaissent pas tout de suite, mais ils voient bel et bien un être humain de chair et d'os. Rien de tel pour Paul. Il a été vu, il s'est fait voir. Le mot grec, c'est « ophté », qui a donné ophtalmologie, bien sûr. On note que Paul utilise le même terme pour les visions des 12, des 500, de Jacques, des apôtres et de lui-même. Alors que Paul n'a jamais prétendu avoir vu Jésus ressuscité en chair et en os. Et Luc, qui est le biographe de Paul, ne le dit pas non plus. Qu'ont-ils vu ? Ils ont vu que Jésus était ressuscité. Nous n'en saurons pas plus. Il est vraisemblable que cela est une construction intellectuelle de Paul, hein, trop bien construite pour être historique. Vous avez Pierre, Paul l'appelle Céphas, hein, c'est le nom grec. Pierre, les 12 apôtres, on note au passage que Paul n'a jamais entendu parler de la trahison de Judas. Il y a 500 frères à la fois, dont certains sont encore vivants. Puis il y a Jacques, le frère ou demi-frère de Jésus, suivi de ceux que Paul appelle les apôtres. C'est pas comme ça que nous les appelons, mais en réalité, ces apôtres sont le groupe de missionnaires réunis à Jérusalem autour de Jacques. Paul rend ainsi hommage aux deux chefs de la jeune communauté, que l'on n'appelle pas encore chrétienne, Pierre et Jacques, dont il reconnaît l'autorité, même si l'on sait qu'il a eu des rapports parfois très tendus avec eux. Le sens est clair, Paul veut convaincre les Corinthiens, peut-être lui-même, de la résurrection de Jésus. Et pour cela, il invoque des autorités indiscutables, des deux leaders de la communauté et de témoins directs, les 500, dont la plupart sont encore vivants et que l'on peut donc interroger. Et il se cite lui-même comme témoin oculaire, « Je l'ai vu !» Parce que, il le dit, et je le répète, s'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas de foi en Christ, il n'y a pas de christianisme. Alors, qu'est-ce que la résurrection pour Paul ? Les successeurs de Paul, Matthieu, Luc et Jean, pour donner de la crédibilité à leur récit des apparitions du ressuscité, rapportent des petits faits qui font vrai, authentique. Donnez-moi à manger, touchez mes plaies. Paul reste évasif. Son ressuscité est abstrait, évanescent. Pourquoi ? Il le précise peu après, je l'ai lu. La résurrection de Jésus constitue les prémices de la résurrection future des croyants, ceux qui sont déjà endormis et ceux qui le seront. Les évangélistes, certes, annoncent la vie éternelle des croyants, mais Paul parle bien de résurrection. Trop préciser l'aspect physique du ressuscité serait préjugé de notre aspect lorsque nous serons à notre tour ressuscités. C'est un scénario apocalyptique de la fin des temps. Il le dit. Puis ce sera la fin et le dernier ennemi vaincu sera la mort. Dans l'épître aux Romains, Paul précise un peu, Dieu fait vivre les morts et appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Et Paul ne s'en tient pas là. Au verset 35, « Comment les morts ressuscitent-ils ? Avec quel corps reviennent-ils ? » On voit que Paul ne recule pas devant les difficultés. Évidemment, on ne peut pas décrire la vie après la mort. Shakespeare parle du pays non exploré dont aucun voyageur n'a repassé la frontière. C'est dans le monologue d'Hamlet. D'où l'astuce de Paul. Une image tirée de l'agriculture. On est semé dans la corruption et on ressuscite incorruptible. Il n'y a pas discontinuité entre la graine et la plante, c'est le concept du corps spirituel qui prendra la relève du corps charnel. Il est difficile d'en dire plus. Hein. L'humanité a inventé des images pour représenter l'au-delà. Je n'en cite que quelques-unes. Un ciel où, pour l'éternité, nous flottons, entourés d'anges qui jouent de la harpe. Bon, oui, c'est pas terrible. Un banquet divin, le festin de Babette, peut-être. Enfin, un banquet éternel pour un corps spirituel. Bon. L'écrivain, passons à un écrivain de science-fiction, Philip Joseph Farmer, dans un cycle romanesque Cycle du fleuve, il a inventé une planète où reviennent à la vie tous les humains tels qu'ils étaient à l'âge de 25 ans. Bon, mais c'est pas Dieu, c'est une création de démiurges extraterrestres. Eux, les humains, là, ils croient que c'est Dieu qui les a ressuscités, et ça n'arrange rien, ils recommencent à inventer des armes et à se faire la guerre. Passons. Marc, lui, repris par Matthieu, puis par Luc, rapporte le piège tendu par des Sadducéens à Jésus. Une femme qui a eu 7 époux successifs, 7 frères, selon la loi juive, meurt. Duquel sera-t-elle l'épouse lors de la résurrection ? Jésus les rembarre. Après la mort, il n'y aura ni époux ni épouse. Ils seront comme des anges. Bon, c'est encore un peu vague, hein ? Enfin, bref. Paul reste raisonnable. Il ne précise pas ce qu'est le corps spirituel qu'il annonce. Je ne peux pas en dire plus, hein. Nous ne saurons ce qu'est l'au-delà, la vie éternelle, que lorsque nous y serons, le plus tard possible. Alors comment conclure sans rester sur ce flou, cette constatation d'ignorance ? Paul a utilisé une image, celle de la germination. Je vous en propose une autre, tout aussi poétique, j'espère. Dans le film « Le lion et le vent » de John Milius, le premier film que j'ai passé au ciné-club au deuxième étage, on voit le chef berbère, incarné par Sean Connery, bon, il n'était pas berbère, il était écossais, peu importe, qui fait ses adieux à l'américaine qui est jouée par Candice Bergen. Évidemment, entre cette américaine et ce chef berbère, il ne peut rien avoir, et il n'y a rien dans le film, mais on sent que peut-être. Et donc voilà comment le chef berbère, Moulay Hamoud El-Razouli, fait ses adieux à l'américaine. Nous nous reverrons, Madame Pédécaris, lorsque nous serons deux nuages d'or dans le ciel. C'est une image qui annonce des retrouvailles avec ceux qui nous sont chers, un message d'espérance et de grâce. Amen. Je vous invite à vous lever pour écouter une confession de foi, parmi d'autres. Celle-ci, je l'ai trouvée dans le recueil de chants il y a quelques mois, une feuille volante, je crois que ça vient du temple de Versailles. Et elle m'a plu. Pour le monde et pour moi, j'ai confiance en Jésus de Nazareth. Il est le seul sauveur et maître. Il a été l'homme véritable, comme nul homme ne peut l'être par lui-même. Il est mort sur une croix pour les autres et pour le monde, comme pour moi. Il est ressuscité. Il est présent pour tous les hommes et pour les servir. Il appelle son Église sans tenir compte de nos distinctions. Il agit par les hommes dans l'histoire pour l'amener à son but, un univers réconcilié dans l'amour. Ainsi, je ne crois ni à la fatalité de la guerre, ni de la haine, ni de la catastrophe, ni de la mort, parce que je crois que Jésus libère l'homme pour des décisions libres. Cela pourra prendre du temps, mais j'y crois. Grâce à lui, ma vie a un sens, l'univers aussi. Pour le monde et pour moi, j'espère en Jésus de Nazareth. Il vient. Le cœur de Dieu est révélé. Place. C'est le temps des annonces, Monsieur le Président. J'en ai eu l'affaire d'ailleurs. Pour les fins cinéphiles qui sont des habitués du cinéma du Foyer de l'Âme et qui ont l'habitude de venir le premier jeudi du mois, au mois de mai, c'est décalé. Parce que le 2 mai, le premier jeudi, c'est le 2 mai. Donc vous imaginez bien qu'il y a un pont. Le deuxième jeudi, c'est l'Ascension. Le troisième jeudi, la salle est prise. Donc ce sera le quatrième jeudi, 23 mai. 23 mai, c'est facile à retenir, c'est la Saint-Didier. Et ce sera Léon mort un prêtre, donc le film de Jean-Pierre Melville, avec Emmanuel Riva et Jean-Paul Belmondo. Il y a, paraît-il, eu un remake pour la télévision que je n'ai pas vu. Si vous l'avez vu, venez voir le film, vous comparerez. Si vous ne l'avez pas vu, venez voir le film quand même. Voilà, c'est comme d'habitude, 19h45 la projection et un encas partagé à 19h. Monsieur le Président.
Alors, comme chaque dimanche, je vous rappelle la collecte au profit de l'épicerie solidaire de la Croix-Rouge. Donc la liste des produits qui sont utiles est affichée dans le hall d'entrée. Et bien sûr, vous pouvez apporter d'autres produits dès lors qu'ils sont non périssables. La pause biblique aura lieu mardi 23 à 11h30 avec un repas qui est préparé par Nicole. Et ce sera la suite de la lecture de l'épître aux Galates. Il y a une réunion du comité d'entraide mardi à 18h30. Mercredi 24, le groupe biblique se réunira à 19h30 dans la salle du deuxième, du ciel à la résurrection avec entrée dans le Nouveau Testament. Jeudi 25, ce sera, comme d'habitude, la pause spirituelle à 12h30 dans le temple. Et toujours jeudi 25, le groupe des jeunes adultes se réunira à 19h30 dans la salle du deuxième étage. Vendredi 26, il y a une réunion du groupe Théo et Psycho à 19h30 dans la salle du deuxième autour du livre « Traversée du christianisme » de Jean-Daniel Kos et Eliane Cuvillier. Samedi 27, le groupe Évangile et Liberté se réunira dans la salle du deuxième autour du livre de Raphaël Picon, tous théologiens. Toujours le samedi 27, à 14h, dans la salle du deuxième, le groupe Ciel et Terre. 10h30 finalement, d'accord. Et alors, comment ça marche avec Évangile et Liberté ? D'accord, alors ce sera en bas pour Ciel et Terre, dans la salle du rez-de-chaussée. Le samedi 27 à 17h50, il y aura le caté dans la salle du deuxième. Dimanche 28, eh bien, Dominique sera de retour pour le culte, qui sera un culte avec les jeunes du caté et de l'école biblique et du pré-caté à 10h30. Voilà, alors à noter pour la semaine suivante, la conférence de notre ami Ben Kramer, « Quand les femmes sont à l'avant-garde du combat pacifique », c'est à 19h30 dans le temple. Ce sera suivi d'un repas dans la salle du deuxième étage, un repas tiré des sacs. Chacun apporte quelque chose à manger et on partage. Et vous trouverez des petits flyers sur la table située à l'entrée. Et enfin, je vous rappelle un peu plus loin le rassemblement Terre d'Espérance, le rassemblement régional, à Boissy-Saint-Léger le samedi 4 mai toute la journée. Voilà, alors il y a quelques autres annonces. Tu commences ?
Alors, s'il y a des personnes qui viennent mardi à...
Voilà, alors Antoine va vous faire un petit message.
Oui, petit message parce que j'ai eu quelques mails. Nous avons rencontré quelques petits problèmes techniques indépendants de notre volonté pour éditer les reçus fiscaux. Donc, on y a encore passé la journée hier. Ils vont partir, ne vous inquiétez pas. En attendant, si vous savez ce que vous avez versé, vous pouvez faire votre déclaration sur la base de ce que vous avez versé. Vous recevrez le reçu après, qui vous sera peut-être demandé par l'administration fiscale. Mais vraiment peut-être, parce que c'est très rare. Voilà. Donc vous inquiétez pas, ils vont arriver, c'est juste une question de jour. Voilà.
Je vous rappelle que j'ai le plaisir de vous proposer une journée à Rouen et l'abbaye de Jumièges, samedi 1er juin. Voilà, il reste des places. Si le soleil est avec nous, ça peut être absolument enchanteur. On partirait à plusieurs voitures parce que l'abbaye de Jumièges n'est guère accessible par les transports en commun. On visiterait cette abbaye qui est absolument merveilleuse, des ruines romantiques, un lieu où souffle l'esprit. On pique-niquerait dans le parc magnifique de l'abbaye. Puis on s'acheminerait vers Rouen pour visiter le musée des Beaux-Arts qui est juste un des plus beaux musées des Beaux-Arts de France, avec une collection de peintures anciennes, peintures impressionnistes. On se promènerait dans la ville, les belles églises médiévales, voilà. Donc ça promet d'être une très belle journée. Si vous êtes intéressé, vous pouvez venir me voir à la fin de ce culte. Vous pouvez aussi m'écrire, mon adresse mail figure dans le bulletin de l'amitié de ce mois-ci, qui je pense est encore disponible à l'entrée.
Au foyer de l'âme, on ne sait plus où donner de la tête. Parfois même deux activités en même temps. C'est le moment de l'offrande. Laurent Gagnebin, ici présent, a raconté un jour que lorsqu'il était professeur de théologie à l'Institut, à Paris, il a demandé à ses étudiants « Quel est le moment du culte que vous préférez ?» Alors, il y en a qui ont dit évidemment la prédication, le Notre Père, le psaume, et il paraît qu'il y en a un qui a dit « Moi, ce que je préfère, c'est l'offrande, parce que j'ai le sentiment de partager et de communier avec les autres. » Et donc, cette joie va vous être offerte. Donc, pendant l'offrande, si vous voulez bien vous lever et chanter le cantique 266, « Ô Jésus, mon frère ». Prenez place. Nous entrons dans le temps de l'intercession. Notre Père, nous te prions pour celles et ceux qui ont faim. Fais-nous découvrir la joie du partage. Nous te prions pour les immigrés et les exilés. Prépare-nous à les accueillir avec toutes leurs différences. Nous te prions pour ceux qui sont seuls. Conduis-nous à leur rencontre. Nous te prions pour les prisonniers. Rappelle-nous qu'ils ont droit au respect. Nous te prions pour les malades. Inspire-nous de leur offrir notre appui. Et nous te prions, dans le secret de nos cœurs, pour ceux qui nous sont chers. Et nous voulons te redire ensemble, à haute voix ou in petto, la prière que Jésus lui-même nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir l'exhortation. Quelques mots de l'apôtre Paul, tirés de... Ah oui, l'Épître aux Éphésiens, chapitre 4, les versets 31 et 32. Amertume, irritation, colère, éclat de voix, injure, tout cela doit disparaître de chez vous, comme toute espèce de méchanceté. Soyez bons les uns pour les autres, ayez du cœur, pardonnez-vous mutuellement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Craindrai-je encore. Craindrai-je encore, il vit à jamais, celui que j'aime, le prince de paix, il est ma victoire, mon puissant soutien, ma vie et ma gloire. Non, je ne crains rien. À toi la gloire, ô ressuscité. À toi la Nous recevons la bénédiction de la part de Dieu. Nous allons quitter ce temple, retrouver la vie quotidienne, nos habitudes, nos joies, nos soucis. Annoncer partout la bonne nouvelle de la grâce, de la vie éternelle et de la présence toujours de Jésus à nos côtés. Jésus tel qu'il était et non tel que nous l'imaginons, de façon restrictive. Que le Seigneur de la paix vous accompagne et vous donne lui-même la paix en tout temps, de toute manière. Bon dimanche.